et lire en Éphésiens chapitre 5, et nous allons lire du verset 1 à 7. Je ne sais pas si nous arriverons à dépasser le verset 2. Vous savez, la parole de Dieu nous dépasse en fait. Et des fois, on planifie des choses, mais c'est tellement riche, la parole de Dieu, et ces paroles-là sont tellement profondes. Nous continuons à voir ce qu'est la marche du croyant en Éphésiens. Et nous lisons tout d'abord donc le texte avant de regarder un petit résumé rapidement de ce que nous avons déjà vu. Parce que même l'apôtre Paul disait, nous ne vous lassons pas de vous dire les mêmes choses. Alors quand c'est les bonnes choses, il faut les mémoriser et nous rappeler l'exhortation du Seigneur pour ne pas être des auditeurs oubliés et puis entendre la parole et ne pas la mettre en pratique, ce qui n'est pas le plan de Dieu, puisque Dieu veut que nous pratiquions sa parole, que nous la mettions en pratique, que nous la vivions et que nous progressions, que nous soyons transformés par la puissance de Dieu et de son esprit. C'est le plan de Dieu pour chacun de nous. On va prier, si vous me permettez. Seigneur, merci de la joie que tu nous donnes d'être ensemble ce matin. Glorifie ton nom. Manifeste-toi dans nos vies. Réjouis nos cœurs de te connaître et que nos bouches s'ouvrent pour t'adorer, Seigneur. Que nos cœurs s'ouvrent pour recevoir la parole de vérité, qu'elle nous transforme, qu'elle nous exhorte, qu'elle nous édifie, qu'elle nous fasse connaître Dieu et son Fils Jésus-Christ. Aussi, nous t'adorons, Père éternel, de tous tes bienfaits, au nom de Christ. Amen. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Éphésiens 5, verset 1. Quel programme ! Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, nous parle de la marche, et nous avons vu ce qu'est la marche en nouveauté de vie. Le passage ici nous exhorte à marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Et on va voir ça en détail. Mais rapidement, un petit rappel pour nous permettre de nous souvenir ou de mieux intégrer globalement l'Épître aux Éphésiens et focaliser là où nous nous trouvons à l'heure actuelle. Nous avons vu que le plan en Éphèse, chapitre 4, à partir du verset 17, nous propose la conduite chrétienne, d'abord dans notre vie personnelle, la vie dans la société, la vie dans la famille, on le voit petit à petit. Donc nous avons vu que dans la vie personnelle, la marche du croyant doit nous amener à répudier la vie ancienne, à abandonner la façon de vivre comme des païens. Ensuite, on a regardé ensemble que marcher en nouveauté de vie, c'est connaître Christ et c'est changer d'homme. Et quand on change d'homme, parce qu'on revêt Christ, on change de conduite. Donc Dieu nous amène de façon pratique à vivre selon les principes de la nouvelle vie, c'est-à-dire changer de conduite. Et il y a quelques exemples ici que l'apôtre Paul nous donne et que nous avons regardé ensemble. Tout d'abord, répudier sa vie ancienne, c'est ne plus marcher comme un païen, parce que la vie de païen, c'est quelqu'un, d'après la Bible ici, qui est séparé de Dieu. Alors il est question de la marche païenne caractérisée par la vanité des pensées, l'intelligence obscurcie, étranger à la vie de Dieu, c'est-à-dire séparé de Dieu. Il n'y a pas de vie de Dieu dans une personne qui ne connaît pas Dieu. Et puis l'insensibilité qui amène à un dérèglement qui peut amener à l'impureté, jointe à la cupidité. On a parlé déjà de ça ensemble en détail. Connaître Christ, en fait, il y a trois verbes. Paul souligne le fait d'apprendre, d'entendre et d'être instruit. On ne peut pas connaître Christ si on n'entend pas parler de lui. On ne peut pas connaître Christ si on n'apprend pas de lui. Et Dieu nous amène même à aller plus loin, à être instruit de lui, à être un disciple qui continue dans la vie du croix, dans sa vie, à continuer à être enseigné par Dieu et sa parole. Alors, marcher en nouveauté de vie, être instruit en lui, on a vu que c'est se dépouiller, à être renouvelé, et puis à revêtir l'homme nouveau. Évidemment, c'est un langage spirituel. Et c'est un langage d'une réalité, d'une expérience chrétienne, lorsque Christ vit dans celui qu'il a accepté. Pour vivre en nouveauté de vie, il faut avoir reçu cette nouvelle vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle vie, une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors Paul nous dit que le croyant, en fait, déjà au chapitre 4, nous parle d'une marche digne, qui amène d'ailleurs à une vie de paix, d'unité, de croissance dans l'Église. Et ensuite, il nous appelle à avoir une vie différente de celle des païens, en résumé, une vie en nouveauté de vie, quelqu'un qui se dit chrétien et qui a accepté le Seigneur, quelque part dans sa vie, il y a des choses qui changent. Peut-être tout ne change pas du jour au lendemain, mais il y a une transformation qui fait que les autres disent « Mais tu as donc changé, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ?» Sans même peut-être que la personne s'exprime trop, parce que finalement, la vie en Christ déborde et manifeste quelque chose. La paix, la joie, la bénité, la tempérance, choses qui ne sont pas peut-être dans nos cœurs, qui ne sont pas peut-être dans nos cœurs naturels. Et les gens qui nous ont connus avant notre conversion ont bien vu la transformation opérée par Dieu. Une marche selon une nouvelle conduite. Et puis, dans cette nouvelle conduite, il y a de renoncer aux mensonges. Il y a donc de ne pas se mettre en colère, ne pas donner accès au diable. On a parlé de la colère, bon, j'ai gardé l'illustration ici, peut-être l'image nous fait réfléchir, et la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. On a vu ça en détail, ce n'était pas simplement ces illustrations, mais on a vu ça en détail. Et puis on a vu qu'il faut renoncer au vol, ne pas dire de mauvaises paroles, ne pas attrister le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, par lequel il nous a scellés, et faire disparaître les mauvaises habitudes pour en avoir de nouvelles. Et notamment, le Seigneur nous dit que, au verset 32, le chapitre 4 se termine par « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Alors nous, on a chapitre 5, verset 1 dans nos Bibles. Mais en fait, le texte ici continue avec une logique qui suit la conclusion, en tout cas, de ce paragraphe du chapitre 4 à la fin, puisqu'il est question de la vie par rapport au Saint-Esprit. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Le donc ici fait suite à ce qui précède. Et comment devenir imitateur de Dieu? Comment marcher dans l'amour à l'exemple de Christ? Dans quel domaine l'apôtre Paul vient de nous exhorter, si ce n'est de nous pardonner réciproquement? Vous pardonnant comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comment est-ce que je dois pardonner? Je dois pardonner comme Dieu m'a pardonné en Christ. Donc je dois savoir qui est Dieu, comment il pardonne, et ce que c'est que le pardon en Christ, et c'est ce que nous allons voir ce matin. Donc la marche dans l'amour, c'est maintenant du verset 1 à 7, je ne crois pas qu'on aura le temps de tout voir, on verra un peu plus tard la marche dans la lumière, dans le même chapitre ici, et la marche dans la sagesse. À croire que Dieu a tous les ingrédients nécessaires pour nous donner des anabolisants spirituels, hein, pour nous faire aller de l'avant et marcher de façon glorieuse. La vie chrétienne n'est pas facile, parce que des fois, il est écrit qu'on est assis, d'autres fois il faut marcher, puis d'autres fois il faut courir. On a toutes sortes de conditions physiques, spirituelles, représentées par ces expressions, notamment d'ailleurs dans l'Épître aux Éphésiens. Alors la marche dans l'amour, c'est devenir imitateur de Dieu et marcher dans l'amour. C'est aussi à l'exemple de Christ, suivre la façon dont il nous a aimés. Et puis c'est une mise en garde que l'on voit ici, je le dis déjà, mais je pense encore une fois qu'on n'aura pas le temps de le voir ce matin. À partir du verset 3, il y a comme la contrefaçon de l'amour. Dieu nous dit de nous aimer, Dieu nous montre comment il nous aime, et puis tout d'un coup Paul parle d'un contraste. D'une vie finalement qui n'est pas l'amour de Dieu. Il parle de l'impureté, il parle de la débauche, il parle de la cupidité. En fait, c'est un amour de contrefaçon. Ce n'est pas le vrai amour que Dieu veut qu'on vive, cela. Les gens pensent que dans la débauche, l'impureté et même la cupidité, ils trouvent un certain amour. Mais ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas ça aimer selon Dieu. Et ne pas se laisser séduire, mais ne pas avoir peur avec les pécheurs. Donc à l'instant, on va regarder sous les biens ce que c'est que devenir les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. En fait, Paul commence dans ce passage à nous présenter des vérités positives qui ont trait à l'amour de Dieu avant d'arriver à des vérités négatives qui ont trait à l'amour contrefait qui vient de Satan et à ses conséquences. Je crois que la question que nous pose ici le Seigneur ce matin est celle-ci. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Comment est-ce que tu marches? Est-ce que tu as Dieu en face de toi? Est-ce que tu cherches Dieu et à l'imiter? Chercher Dieu et son caractère. Essayer de suivre en obéissance à ses commandements, mais de le suivre à lui. Est-ce que j'ai l'exemple de Jésus-Christ comme modèle? Est-ce que je suis ce qui m'entoure, ou j'ai les normes personnelles, ou alors j'ai les normes élevées de l'exemple de Jésus-Christ? Qu'est-ce que nous faisons de ces exhortations qui sont des commandements ici dans les Écritures? Devenez des imitateurs de Dieu et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Je dois veiller à mes cordes vocales pour continuer à prêcher, je pense, ce matin. Alors, la marche, on a vu ensemble que c'est que la marche. La marche, il y a toutes sortes de caractéristiques de la marche. Mais j'aimerais dire que la marche du croyant dans l'amour, enfin, c'est ce que dit la Bible, c'est l'accomplissement de la loi. Je vous lis le texte, ou si vous voulez tourner dans vos bibles, ce serait bien que vous tourniez en Romains chapitre 13 et versets 8 à 10. Romains chapitre 13, versets 8 à 10. Devenez donc les imitateurs de Dieu, marchez dans l'amour. La Bible dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Ce sont des paroles extraordinaires. Celui qui vit dans l'amour, mais ne pêche pas. Parce que tout est fait en rapport avec l'amour de Dieu et envers l'amour de son prochain. Et le péché, eh bien, c'est être en dehors de la volonté de Dieu, et c'est automatiquement se faire du mal et faire du mal aux autres. Tandis que l'amour de Dieu dans le cœur du croyant le pousse à aimer non seulement Dieu, mais son prochain à l'image de l'amour qu'il a reçu de Dieu. Donc le don ici, c'est une logique de l'apôtre Paul. Si vraiment vous connaissez le Seigneur, si vous vivez en nouveauté de vie, vous allez être et vous allez chercher à être des imitateurs de Dieu. C'est le modèle de Christ que vous allez suivre. Il est possible d'imiter son amour, parce que la Bible dit notamment, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Un jour j'ai dit, en faisant l'étude de la première épître de Jean, que j'ai découvert 70 caractéristiques de celui qui est né de nouveau. Eh bien, une des caractéristiques que souligne encore l'apôtre de l'amour, Jean, n'est-ce pas? On dit qu'à la fin de sa vie, on le transportait sur une chaise et il avait un message constant, aimez-vous les uns les autres. On dit que Jean est l'apôtre de l'amour. Eh bien, ce qui caractérise la vie d'un enfant de Dieu et sa nouvelle naissance, c'est l'amour. L'amour de Dieu, l'amour de sa parole, l'amour de l'Église de Christ, l'amour de Christ, l'amour de son prochain. L'amour devrait caractériser nos vies. Et même, ce n'est pas simplement l'amour qui devrait caractériser nos vies. Je vous lis un passage en 1 Pierre 1, verset 14-16, qui dit « Comme des enfants obéissants ». Ah, tiens, on pourrait ne pas obéir. « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Dieu dit que de le fréquenter, d'être né de nouveau et de vivre avec lui, amène une transformation de vie et une ressemblance avec l'abandon des anciennes habitudes, notamment la convoitise qui était une ignorance, parce que maintenant dans notre esprit, on a la pensée de Christ. On découvre la nature de Dieu qu'on connaissait pas avant. Mais c'est pas simplement de la sainteté dont on a besoin, certainement c'est le point de départ de tout, la sainteté de Dieu. Mais on a besoin de son amour. Et c'est vrai que cet amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul dit qu'on doit être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Nous avons besoin d'apprendre à être saints, d'être pleins d'amour, mais cela est possible par la vie de l'esprit en nous, afin que nous soyons remplis jusque toute la plénitude de Dieu. Vous avez pensé peut-être un jour que vous ne pourriez plus aimer, que vous n'avez plus la capacité d'aimer, que votre réservoir d'amour est maintenant limité, où il est complètement vide. Eh bien, allez au pied du Seigneur, demandez-lui son amour, et il va vous remplir, parce que lui, son amour est illimité. Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Nous aimer, c'est une œuvre de Dieu préparée d'avance. Et lorsque les chrétiens, comme dans notre Église, passent du temps ensemble, prient ensemble, chantent ensemble, louent le Seigneur, c'est l'expression de l'amour de Dieu en nous, et on a envie de vivre cela et de nous aimer les uns les autres, mais c'est dû à la vie de l'Esprit en nous. L'incroyant qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne connaît pas cette joie du Seigneur, cette communion fraternelle, cette amitié si riche que nous pouvons avoir les uns envers les autres. En fait, la Bible dit que tout ce qu'on devrait faire devrait être rempli de l'amour de Dieu. La Bible dit que tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Mais on oublie un autre verset, 1 Corinthiens 16, 14, qui dit que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Je me souviens, ça me vient à l'esprit, mais j'ai déjà donné cette anecdote, mais bon, excusez-moi. Je me souviens quand j'étais pasteur à Québec, dans une transition d'un local, attendant la construction d'une belle église. On était dans une école et j'avais pratiquement une salle de classe comme bureau dans la semaine. Et j'entendais une dame qui rangeait les objets à la pouponnière, mais qui ne faisait que se plaindre. Et comment ça se fait que, vous savez? Et j'ai dit à la voix, j'ai dit, écoutez, ma sœur, vous venez ici pour, c'est vrai, ranger, faire du ménage, etc. Mais est-ce que vous le faites pour la gloire de Dieu? Ou est-ce que vous le faites pour vous plaindre des autres? Est-ce que vous avez l'amour de Dieu pour le faire pour Dieu? Ou est-ce que vous regardez toujours à ce qui ne va pas? Mais justement, l'amour de Dieu dans votre cœur devrait vous donner la joie de le faire. Et j'ai dû l'exhorter à faire quelque chose de pratique, mais dans l'amour de Dieu. On peut tout faire avec amour, et c'est ce qui donne la joie, ou on peut le faire sous contrainte, et puis finalement devenir négatif, critique, parce qu'il n'y a pas l'amour. Si on ne fait pas les choses avec amour, que l'on prêche, que l'on enseigne, que l'on chante, que l'on dirige, que l'on invite ou exerce l'hospitalité, que l'on prie, faites tout avec amour. C'est la jauge de Dieu. Et d'ailleurs, ça se sent. Moi, j'aime bien dire que l'Église devrait être un oasis d'amour. Je me souviens quand j'ai fait mon service militaire, à un moment donné, on nous a demandé de décorer une salle. J'ai été choisi à cause de ma formation. Alors, j'avais fait une fontaine, une fontaine à partir de récupération, les grandes boîtes à conserve, vous savez, de la cantine militaires, elles sont énormes, avec un grand tube métallique. J'avais fait une fontaine où le principe était que il y avait des cercles et il fallait que le premier se remplisse pour remplir tous les autres. J'avais fait une fontaine à bon marché. Alors, il y avait un soudeur qui avait fait ça, un petit moteur qui ramenait l'eau en haut. C'était bien, les gens étaient contents. Et je me suis dit, mais ça c'est l'illustration de l'amour de Dieu dans l'Église. Dans la mesure où on est rempli, mais on déborde sur les autres. L'Église doit être une fontaine d'amour où on a envie d'aller vers les autres parce qu'ils nous déversent quelque part un peu l'amour de Christ. C'est agréable d'avoir des frères et des sœurs remplis de l'amour de Christ. Trouvez pas? Est-ce qu'on a le droit d'attendre de voir l'amour de Christ chez un frère et une sœur? Oui. Et ça devrait déborder sur les autres parce que c'est dans la nature de Dieu d'aimer. Si vous aimez Dieu et si Dieu remplit votre cœur d'amour, vous allez montrer votre amour. Alors peut-être même sans en être conscient, mais l'amour de Christ en vous va déborder parce qu'on est des enfants bien-aimés. La perspective que Paul nous dit ici, devenez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Vous avez goûté que Dieu vous aime. Pensez que vous êtes des enfants de Dieu, des enfants bien-aimés. Vous savez, les enfants ressemblent à leurs parents. Il est naturel que les enfants soient comme leurs parents. D'ailleurs, dans les familles, c'est assez surprenant. On voit des traits de caractère, des choix de carrière, des attitudes, des façons de penser, philosophie de vie, qui ressemblent beaucoup à leurs parents. Alors, autant choisir ce qu'il y a de meilleur, n'est-ce pas, et surtout biblique. Mais, en fait, les enfants ont une capacité d'imiter les parents. Vous qui êtes parents, peut-être un peu plus âgé, vous avez des enfants plus âgés, vous n'avez jamais surpris un de vos enfants vous imiter, ou alors même vous taquiner en faisant des imitations. Mais Dieu a fait de nous ses enfants. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole de Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, nous avons ce privilège d'être ses enfants. Et la Bible dit en Éphésiens, justement, 5, Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. S'il y a une des ruses de Satan pour l'enfant de Dieu, c'est nous faire croire que Dieu ne nous aime pas ou Dieu ne nous aime plus. Mais on est un enfant de Dieu. Je peux toujours aller vers mon Père et tout lui confier, absolument tout. C'est merveilleux cela. J'ai un Père qui m'écoute et qui a à sa disposition toute la puissance de Dieu, parce qu'il est Dieu. Je peux aller vers lui, lui demander de pourvoir à mes besoins, lui demander de me donner du pardon pour quelqu'un si c'est nécessaire. Je peux tout obtenir, j'ai tout pleinement en Christ, parce que je suis un enfant d'adoption. Je ne suis plus un enfant de rébellion. J'ai une relation avec Dieu. Avant, j'étais rebelle, puis Dieu me regardait en colère tant que j'avais pas accepté la solution, le remède qu'est Jésus-Christ. Mais une fois que je l'ai accepté, que je me suis humilié, que je demandais pardon, j'ai une relation envers Dieu. Vous savez quand est-ce Dieu a commencé à nous aimer? Dès la fondation du monde et même bien avant. La Bible dit Dieu prouve son amour. En tout cas, c'est une des choses moi, que j'avais lu une fois, jeune croyant, qui avait bouleversé ma vie. Je crois, Dieu prouve son amour. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour. Avant même que vous naissiez, avant même que vous l'acceptiez, après tous les péchés que vous avez pu faire, Dieu, bien avant, avait commencé à vous aimer. Et quand on sait que Dieu nous aime avant, c'est extraordinaire. Un papa qui donne naissance à un enfant ou qui prévoit une naissance et puis voilà, l'épouse tombe enceinte, mais il est tout excité de voir l'enfant naître et il prépare tout cela, il a tout un potentiel de papa, il va montrer son amour, il est tout préparé. Mais Dieu qui nous a enfantés, il nous a aimés bien avant, de toute éternité. Vous êtes l'objet de son amour et vous êtes devenus maintenant ses enfants. Et il chérit ses enfants. Donc vous pouvez toujours aller vers lui et être rempli de l'amour et marcher dans la charité. Parce que notre Père céleste est saint, nous devons également être saints. Parce qu'il est bon, nous devons l'être également. Parce qu'il pardonne, nous devons aussi pardonner. Parce que Christ s'est humilié. Et Dieu s'est humilié quelque part en envoyant son Fils. Et Jésus-Christ s'est humilié. Philippiens chapitre 2, on voit cette étape ici dans son incarnation d'humiliation profonde. Jusqu'à l'obéissance de la mort de la croix. Alors, nous aussi, on doit apprendre à s'humilier. Et parce que Dieu nous a aimés, nous, ses enfants bien-aimés, ressemblons à notre Père et soyons remplis d'amour. Alors, quelques traits esquissés, parce que rien que parler de l'amour de Dieu, ça prendrait des années, je pense, non? Mais quelques traits esquissés. La plus grande preuve d'amour de Dieu est le fait qu'il nous a pardonnés alors qu'on ne mérite absolument rien. Ça s'appelle la grâce, un don immérité. L'acte suprême de l'amour de Dieu est le fait qu'il a donné son Fils unique, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il nous a donné son Fils unique, ce qu'il a de plus cher, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu a produit le pardon de l'homme. Dieu a aimé le monde d'un tel amour qu'il a offert le pardon aux hommes, rebelles, misérable et vil en envoyant son propre fils donner sa vie sur la croix afin qu'eux ne meurent pas. Il a offert au monde le don gratuit de la communion éternelle avec lui. Pensez-vous que Dieu vous a sauvé parce que vous le méritez et que vous méritez son amour parce que vous êtes beau, fort, intelligent, capable et vous faites des choses qui plaisent à Dieu? Impossible. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, et tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la foi. Parce que le pardon de Dieu est aussi la preuve suprême de l'amour de Dieu, il est aussi la preuve la plus convaincante de notre amour. Et cela nous porte à pardonner aux autres, tout comme l'amour a porté Dieu à pardonner en Christ. Et là, on est dans le fil conducteur du passage ici. Vous pardonnant comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et on est obligé, en regardant ce texte, en parlant de marcher dans l'amour, d'essayer de se sonder de la mesure avec laquelle nous pardonnons. Et la mesure avec laquelle nous pardonnons est la mesure de l'amour de Dieu en nous. C'est profond ce que dit la Bible ici. En fait, la Bible dit quelque part qu'un cœur qui ne pardonne pas est un cœur qui n'aime pas. Le pardon révèle toujours la présence de l'amour dans le cœur de celui qui pardonne, parce que seul l'amour donne le motif et la force de pardonner. Alors, on peut évaluer la grandeur de notre amour à la mesure dans laquelle nous sommes capables de pardonner. Dis-moi combien tu aimes, combien tu pardonnes, et je te dirai combien tu aimes. C'est vrai cela. C'est vrai dans le couple. C'est vrai des parents vers les enfants, des enfants vers les parents. Et c'est vrai dans l'Église. L'amour, ça consiste à pardonner, à accorder un plein pardon, comme Christ nous a accordé un plein pardon. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront plus blancs que la neige. C'est extraordinaire. Quand Dieu pardonne, il tourne la page et puis il efface le passé. Il ne revient pas sur les fautes passées. C'est le diable qui veut revenir, n'est-ce pas, nous accuser pour les fautes passées. Mais quand Dieu pardonne, il pardonne. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il enlève toutes les conséquences de nos erreurs. Mais quand il pardonne et il met nos péchés au fond de l'océan. C'est pour ça que la Bible dit, avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Puis le mot ardent ici, ça évoque l'idée d'un muscle tendu à la limite de sa capacité. Autrement dit, Dieu ici nous dit, ayez un ardent amour les uns vers les autres, c'est Pierre qui dit ça, c'est un amour intense. C'est un amour qui se donne, qui est tendu jusqu'à l'extrême, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Alors, est-ce qu'on est prêt à s'aimer comme cela? Puis s'aimer, ce n'est pas simplement se pardonner. J'ai ajouté quand même dans mes notes ici, c'est aussi de façon pratique prier les uns pour les autres. Alors, je vais donner certains points qui me semblent quand même s'ils sont des exigences. Combien de temps passez-vous dans la prière à prier pour vos frères et sœurs? Vous dites que vous les aimez, mais est-ce que vous priez pour eux? Et j'ai envie d'ajouter, ce n'est pas dans mes notes, est-ce que vous priez pour votre pasteur? Et vous savez, c'est une bonne chose parce qu'il en a vraiment besoin. On a besoin de prier les uns pour les autres. Nous avons une liste le mardi soir et nous prions fidèlement pour les sujets qui nous sont présentés, mais ce n'est pas simplement quelques personnes à qui le rôle de prier doit être donné. Nous devons prier, prendre le temps de prier les uns pour les autres. Parce que vous ne pouvez pas venir le mardi soir. Je veux être pratique, là, vous comprenez? Mais prier à la maison. Mais prier. Analysez votre vie de prière. Est-ce que vous pensez aux autres? Est-ce que vous vivez pour les autres? Est-ce que vous aimez les autres? Quelqu'un a dit, commencer à aimer, c'est prier, puis c'est commencer à souffrir. Vraiment, si vous priez, vous allez voir une différence dans votre relation avec les autres. C'est aussi exercer l'hospitalité, c'est compatir, c'est enseigner, c'est aider, c'est secourir. Enfin, vous comprenez de façon pratique, la liste est longue. Alors, il est écrit ici, marcher dans l'amour à l'exemple de Jésus-Christ. Évidemment, l'exemple est parfait. Et Jésus-Christ s'est offert entièrement en sacrifice tout en mourant au calvaire. Le modèle de la vie chrétienne, c'est Christ lui-même, celui sur qui tout croyant doit calquer sa vie. Vous n'avez jamais été, peut-être, je ne sais pas, même à l'école, amené par votre professeur, peut-être d'art plastique, à calquer quelque chose, n'est-ce pas? et vous essayez de faire la copie. Évidemment que nous essayons de nous calquer sur la vie de Jésus-Christ, mais on est imparfait, donc on n'y arrive pas. La seule façon qu'on peut y arriver, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. C'est de laisser le Saint-Esprit vivre en nous cette vie de Christ, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu. Autrement dit, on se donne à Dieu en Christ pour aimer et vivre pour les autres et jusqu'au bout, je dirais. Paul disait ceci en 2 Corinthiens 3:18, « Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. » Dieu veut nous habite déjà par son Esprit. Il veut qu'une plénitude dans le cœur du croyant pour ressembler à Jésus. En Romains, il est écrit que nous sommes prédestinés à quoi ? Prédestinés à être à l'image de Jésus-Christ. Donc Dieu utilise toutes sortes d'épreuves dans nos vies, toutes sortes de circonstances, pour façonner en nous les caractères de Jésus-Christ. Est-ce que nous réagissons toujours avec amour dans notre vie ? Est-ce que nous mûrissons au point que nous disons, oui, mais là, non, ce n'est pas ce que Christ ferait. Que ferait Jésus à ma place ? Il y a quelqu'un qui a écrit un livre là-dessus. Il nous a aimés. Alors, je vais parler d'autres caractéristiques de l'amour, si vous me permettez. L'amour divin, comprenons ça, c'est un amour inconditionnel. Un amour qui dépend entièrement de celui qui aime et non des mérites de l'attrait ou de l'action de celui qui est aimé. Dobson, dans un de ses livres, parle un peu de cet amour avec l'illustration suivante. Un enfant qui arrive dans un magasin bien habillé, joliment peigné, et la commerçante le félicite, que tu es beau mon enfant, etc. Puis un autre arrive tout mal peigné, tout mal fagoté, etc. Et on dirait qu'il n'y a pas d'amour. En fait, on doit veiller à faire attention de ne pas aimer en fonction des apparences, par exemple. Ou en fonction des mérites, l'amour inconditionnel, c'est l'amour avec lequel Dieu nous a aimés alors qu'on était des pécheurs. Il n'a pas attendu qu'on soit parfait, parce qu'on ne le serait jamais, qu'on devienne agréable à ses yeux, on ne le sera jamais. Mais il nous a aimés comme nous étions. Et l'amour, ça consiste à aimer la personne telle qu'elle est, pas comme on aimerait qu'elle soit. Ça, c'est déjà un amour conditionnel. L'amour inconditionnel, c'est d'aimer la personne parce qu'on a décidé de l'aimer. C'est plus qu'une émotion. Ce n'est pas un sentiment. Bien sûr que les émotions, les sentiments peuvent être là, mais c'est une volonté. Je décide d'aimer. Et d'ailleurs, c'est une volonté qui devrait se manifester, notamment dans un couple. C'est une décision d'aimer et d'être fidèle. Dieu nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs et des ennemis. Et puis, il continue à nous aimer. C'est ça qui est merveilleux. Moi, en tant que jeune croyant, à un moment donné, je me suis dit, ouais, mais heureusement que Dieu ne change pas. Il m'a aimé avant. Il m'a aimé pour me sauver, à ma conversion. Et puis, gloire à Dieu, il continue de m'aimer. Pourquoi ? Parce que ça ne vous arrive jamais d'oublier Dieu, de désobéir à Dieu, de renier Dieu, ou de ne pas lui rendre l'amour qu'il vous donne, ou d'attrister le Saint-Esprit. Mais Dieu, lui, parce qu'il est constant, c'est comme la constance solaire. On prend l'avion, on a les nuages, mais au-dessus des nuages, voilà, le soleil ne change pas. Sa constance solaire ne varie pas. C'est la même puissance, c'est un amour continu. Alors, ce n'est pas l'amour qui fait comme ça. Et on a toute une leçon à apprendre, n'est-ce pas ? L'amour est constant. L'amour a des objectifs précis et garde ses objectifs parce qu'ils sont de Dieu, ils sont liés au caractère de Dieu. Je décide d'aimer. Et d'être fidèle envers mon Dieu, d'être fidèle dans mon amour, parce que c'est Dieu qui est comme ça. Et je veux imiter Dieu à l'exemple de Christ, qui continue à m'aimer malgré mes hauts et mes bas et mes faiblesses. Alors nous aussi, est-ce qu'on ne doit pas apprendre à recevoir cette nature par Jésus-Christ et d'aimer comme Dieu aime ? Quelqu'un a dit, je vous le lis, le manque d'amour est donc plus un manquement qu'une faiblesse, c'est un péché. C'est une désobéissance volontaire au commandement de Dieu et un mépris de son exemple. Aimer comme Dieu aime, c'est aimer parce que Dieu aime, parce que nous sommes les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et parce que Christ qui nous a aimés s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alors aimer, ce n'est pas optionnel. Si on vit avec Dieu, ça doit être le reflet de notre marche avec Dieu. Je vous lis aussi un autre commentaire que j'ai trouvé pertinent. La marche du chrétien dans l'amour doit se manifester envers tout le monde, croyant et non-croyant. C'est plus facile d'aimer les gens qui nous aiment, n'est-ce pas? Si l'amour de Dieu s'étend même à ses ennemis, comment pouvons-nous, nous, refuser d'aimer nos ennemis? S'il aime ses enfants imparfaits d'un amour parfait, comment pouvons-nous ne pas aimer les autres croyants dont nous partageons les imperfections? Et si l'amour divin a conduit Christ à se sacrifier pour des pécheurs indignes et ingrats, comment pouvons-nous ne pas nous donner en son nom pour nos semblables pécheurs, croyants aussi bien que non-croyants? Autrement dit, l'amour de Christ doit être répandu dans nos cœurs, peu importe où nous nous trouvons. Vous savez, sans donner d'exemple, on est dans des situations parfois de mépris ou de persécution ou d'incompréhension où seule la grâce de Dieu peut être là, hein. Si on n'a pas l'amour, si on ne réagit pas avec amour, eh bien on peut subir, n'est-ce pas, justement ce que l'ennemi voudrait faire, nous faire chuter, nous déséquilibrer, si nos yeux ne restent pas fixés sur le Seigneur. Il y a un exemple que j'aimerais qu'on regarde ensemble, c'est Jean 13. Tournez dans Jean 13. Bien sûr, il y aurait tellement de choses à dire, n'est-ce pas? Alors, on va y arriver. On va terminer les deux premiers versets. En Jean 13, qu'est-ce qui se passe? Les disciples discutent. Judas, n'est-ce pas, trahit Jésus. Les disciples discutent alors que leur maître va bientôt mourir sur la croix. Ils discutent pour savoir quel serait le plus grand parmi eux. Autrement dit, ils sont à côté de la coche, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que fait Jésus? Alors, chapitre 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Vous savez, quand Jean dit ça, mit le comble à son amour, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Normalement, c'est le dernier des serviteurs, en quelque sorte, à qui il incombait la tâche de laver les pieds. Voilà ce que fait Jésus. Il prend son linge, une petite vêtue, puis il commence à laver les pieds des disciples. Lui, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et puis, il dit ceci, si vous regardez au verset 12, parce qu'on n'a pas le temps de voir en détail, n'est-ce pas, ce qu'il fait, puis la réaction de Pierre, au verset 12, il dit, après qu'il eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Alors il y a des églises, certaines églises qui disent, oui, il faut laver les pieds, donc à la fin du culte, voilà, je vous invite, on va se mettre tout en rang. Et puis on va se laver les pieds. Bon, je ne crois pas que c'est biblique. Parce qu'à l'époque, les gens avaient mal aux pieds. Il y avait des échardes, il y avait toutes sortes. On marchait peut-être sans de bonnes chaussures. Prendre soin des pieds les uns des autres, c'était prendre soin les uns des autres. Et c'était montrer la charité. Laver les pieds, c'était une question d'hygiène, de propreté et même de guérison. Ou peut-être un pied qui commençait à souffrir, etc. Il y avait vraiment un soin particulier. Jésus nous appelle à prendre soin les uns des autres. Mais vous savez, ce qui nous manque, et chacun de nous, hein, on est à la même école, n'est-ce pas? C'est l'humilité, c'est de s'abaisser, de se rendre serviteur envers les autres. C'est dans la mesure où j'aime comme Jésus, et c'est ce qu'il me demande. Si moi, le maître, je vous avais lavé les pieds, je vous ai donné un exemple, et vous dites que je suis maître, alors faites comme moi. C'est dans la mesure où on a de l'humilité et on commence à servir les autres, qu'on commence à aimer. Et c'est ce qu'a fait Jésus. Et puis, pour aller un petit peu plus loin et terminer avec l'idée que Jésus s'est livré à Dieu pour nous, j'aimerais dire une chose, c'est que quand on sert, quand on veut servir dans l'amour, on se donne d'abord à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui veulent servir, mais ils servent dans leur propre force. Mais ce n'est pas ça l'amour. C'est dans la mesure, le vrai service, c'est dans la mesure où on est rempli de l'amour de Dieu, Parce qu'on s'est donné d'abord à lui, que Dieu nous utilise envers les autres. On met la charrue avant les bœufs. Le service commence par l'humilité devant Dieu. Et ensuite se transmet aux autres par ce même canal. Et quel est l'exemple de Jésus ? J'aimerais qu'on prenne le temps de le regarder, parce que c'est quand même assez extraordinaire que ces paroles de l'apôtre Paul, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu. Ouf ! La Bible dit, je vous le lis rapidement là, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles. » Ésaïe 53, 12, c'est un verset bouleversant dans l'Ancien Testament. « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. » Jésus a donné sa vie, de lui-même il s'est donné. « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Comme le Père me connaît, comme je connais le Père, je donne ma vie pour les brebis. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » En fait, l'exhortation ici que j'ai devant cette façon avec laquelle Jésus a marché dans l'amour devant Dieu le Père, c'est qu'il s'est donné au Père de lui-même. Est-ce que nous sommes volontairement en train de nous donner à Dieu ? C'est une question de volonté, c'est une question, voilà, je m'offre à toi, Seigneur. Je me donne à toi. La Bible dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, le Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Jésus s'est donné. Et moi, est-ce que je me donne à Dieu ? Et est-ce que je me donne à Dieu pour les autres ? Parce qu'il est écrit qu'il s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Vous doutiez l'amour de Dieu ? Regardez ce passage. Dieu s'est livré, et Christ s'est livré à Dieu pour nous. Rendez pas la croix vaine, son amour vain. Dieu vous aime en Christ et il veut vous pardonner. Et pour terminer, il est écrit comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alors dans les Lévitiques, il y a plusieurs sacrifices que l'on voit. Et il y a l'holocauste, il y a le sacrifice fleur de farine et l'offrande. Mais l'idée ici, tout simplement, c'est que l'offrande de bonne odeur, le sacrifice que Dieu a agréé, c'est ce que Jésus a accompli. On ne peut pas entrer peut-être dans les détails ce matin là-dessus, mais la façon avec laquelle Christ s'est donné, c'est comme une offrande, comme dans l'Ancien Testament, il y avait des offrandes qui réjouissaient Dieu. En fait, le ciel est rempli de la bonne odeur et Dieu de joie lorsqu'il voit ses enfants se donner comme une offrande. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, ce qui sera un culte raisonnable, nous dit l'apôtre Paul en chapitre 12. Et de rajouter, avant de terminer, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses ? Paul disait en Philippiens, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de bien, en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Je relis ça. Ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui est agréable. Voilà ce que Dieu nous demande, c'est de nous offrir à lui comme une offrande, et Dieu se réjouit. Et il utilise cette offrande. Vous pensez que vous ne pouvez pas être utilisé par Dieu, mais donnez-vous à Dieu. Et cela va lui plaire, vous allez être une offrande de bonne odeur, vous allez remplir le cœur de Dieu, si je peux m'exprimer ainsi, de joie en vous offrant à lui. Soyez un parfum de bonne odeur. Ça veut dire que c'est agréable à Dieu. Qu'est-ce que vous faites dans votre vie qui plaît à Dieu, qui lui est agréable ? Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. La mesure de notre consécration à Dieu est la mesure, quelque part, de notre amour envers les frères et sœurs. Alors, je termine rapidement. On n'a pas vu les autres choses. Mais Dieu m'invite, au travers de ce qu'on a déjà vu en Éphésiens, je termine, de passer du mensonge à la vérité, de renoncer à la colère injuste, de passer du vol à la générosité, à la libéralité, de passer des paroles mauvaises aux bonnes paroles. Dieu m'invite encore ce matin à ne pas attrister son esprit. Il m'invite de passer des défauts naturels que je peux avoir aux vertus surnaturelles qu'il m'a données, le contraire de l'amertume, l'animosité, la colère, la douceur, la calomnie, la méchanceté, à la bonté, aux compassions, au pardon réciproque. Et Dieu m'invite, on l'a regardé ce matin, à devenir un imitateur de Dieu, à marcher dans l'amour, et on verra la prochaine fois les autres choses. Mais en conclusion, et un défi personnel, bon, je termine vraiment, un défi personnel, est-ce que je cherche Dieu dans ma vie? C'est une bonne question, mais est-ce que je cherche vraiment Dieu? Je ne parle pas d'une émotion particulière, un sentiment de sa présence. Dieu peut l'accorder, mais des fois, il y a des moments où il intervient, où on n'a aucun sentiment et on voit sa puissance. Comment est-ce que je vais imiter Dieu? Dans la prière, certainement, m'humilier, confesser mes péchés, lire la parole. Combien de temps passez-vous à lire la parole de Dieu dans la semaine? Est-ce que vous vous exposez à la vérité de Dieu? Comment on peut imiter Dieu si on ne le connaît pas? Est-ce que j'imite Dieu dans ma vie? Est-ce que j'ai soif de Dieu? Est-ce que je cherche Dieu de tout mon cœur? Et deuxième question que Dieu nous laisse ici, et il attend votre réponse, parce que c'est le texte qui nous dit d'être des imitateurs et puis de marcher dans l'amour. Est-ce que vraiment je cherche à marcher dans l'amour à l'exemple de Christ? Alors le programme de Dieu, il n'est jamais fini. Commencer à aimer, c'est un bon début, puis ça finit jamais. On a toujours à se perfectionner dans tous les aspects de notre vie. Mais est-ce que je cherche celui qui est l'exemple de l'amour, Christ? Est-ce que je suis prêt à me donner à Christ? À me donner comme une offrande? Lui, sur la croix, il est mort pour moi. Il s'est donné entièrement. Et moi, en échange, qu'est-ce que je fais pour lui? Un proverbe disait, mon fils, donne-moi ton cœur. C'est Dieu qui parle. Avez-vous donné votre cœur à Dieu pour chercher Dieu, puis à l'imiter, puis à suivre Jésus-Christ? Et ça va se voir dans nos vies. On a besoin de cela, de l'amour, dans nos vies et dans la société qui ne connaît pas Dieu. Prions. Notre Père céleste, tu nous accompagnes dans notre marche avec toi. Et tu nous montres que nous devons te ressembler. Et c'est mission impossible dans nos caractères humains, dans notre nature pécheresse, rebelle. Mais tu as fait de nous tes enfants et nous marchons en nouveauté de vie. Et Seigneur, c'est une joie pour nous de marcher avec toi, de te connaître, de te chérir. Parce qu'on sait que tu nous aimes, que tu nous chéris d'un amour infini. Oui, Père, crée en nous le vouloir et le faire, de te connaître, de te ressembler, de calquer notre vie sur le modèle de Christ et de nous perfectionner sans cesse dans son amour. Amen.